la parole au dernier orateur de cette session, Pierre-Michel Manger, qui va parler du travail créateur. Et dont j'espère ne pas
Merci.
avoir écorché.
Hein, Menger. Merci aux organisateurs pour leur invitation à cet important colloque. Je vais faire porter mon exposé sur une question qui associe deux mots normalement dont le lexique paraît assez disjoint et dissocié, et je vais essayer de les réunifier et de vous expliquer, de vous suggérer à quelles conditions le travail peut acquérir une valeur positive. Dans une analyse classique, le travail peut être considéré comme une désutilité, une consommation négative, un effort, une manière de perdre sa vie pour la gagner. L'essentiel des valeurs positives étant reporté du côté d'autres sphères, le loisir par exemple. Or, il y a des activités qui, depuis très longtemps, ont été considérées comme des actes de travail qui ont une valeur d'accomplissement et de gratification élevée. Les arts en sont une, ils ne sont pas les seuls. La tradition qui a analysé ces phénomènes-là remonte à Aristote et va jusqu'à aujourd'hui, à travers de nombreux auteurs, notamment Marx, Wannah Arendt. Le point, c'est que cette tradition insiste beaucoup sur une sorte d'ontologie presque enchanteresse de l'acte de création, alors que quand on l'analyse de près, ce sont des actes qui sont pétris d'incertitudes. L'objectif de l'analyse, c'est de comprendre comment coupler la valeur d'accomplissement du travail à l'incertitude sur les chances d'y réussir. Quand on examine, comme je l'ai fait, la position des artistes dans le monde du travail qualifié, et qu'on les rapporte à d'autres professions, on voit d'une part qu'ils sont classés dans des professions supérieures. Les nomenclatures d'emploi ont souvent navigué et les ont parfois rattachées aux policiers et aux clergés. Aujourd'hui, les choses ont bien changé, mais dans toutes les grandes nomenclatures, les artistes sont classés dans les professions supérieures. Pourtant, leurs revenus sont en moyenne au plus bas de leur catégorie. Leur taux de chômage et de sous-emploi sont les plus élevés. Les inégalités de revenus sont très importantes. La multi-activité est très supérieure à la moyenne. Pourtant, ces métiers-là ont une position toujours élevée dans la hiérarchie de prestige des professions, dans la hiérarchie de désirabilité du travail, de l'activité, dans la hiérarchie de la satisfaction prise au travail, selon les enquêtes. Alors, comment peut-on éclairer et expliquer ce paradoxe? Un monde qui est un monde où les revenus sont en moyenne faibles, mais qui est très fortement attractif, qu'est-ce qu'il peut nous suggérer? L'analyse par les moyennes des revenus, des situations, pousse à recourir, par exemple, à l'argument bien connu de ce qu'on appelle les différences compensatrices, à qualification donnée des individus. Un métier qui vous procure plus de satisfaction vous offre aussi plus de gratifications psychiques qui sont en quelque sorte le prix fantôme ou le prix invisible qui est payé par l'individu et qui vient en soustraction de son revenu monétaire. Vous pouvez accepter des travaux qui vous rémunèrent moins mais qui vous procurent plus de satisfaction. Deuxièmement, parmi les caractéristiques qui expliquent beaucoup la satisfaction au travail figure notamment la forte autonomie d'exercice de l'activité, la faible relation de subordination et la variété des tâches exercées, ce qu'on peut appeler aussi le faible degré de routine. Enfin, les statistiques en coupe instantanée, quand on observe une population donnée à un instant T, montrent que les jeunes artistes sont toujours plus fortement, sont très fortement pénalisés. Et ça vient notamment d'un point qu'on mesure bien dans l'analyse des revenus, c'est que la formation initiale a un faible pouvoir explicatif dans l'analyse des niveaux de revenus et dans celle des différences entre les professions par rapport à celle des arts. Pourquoi est-ce que des artistes qui sont formés à peu près en même quantité que d'autres gagnent beaucoup moins? Donc, un autre facteur peut intervenir, comme le capital d'expérience professionnelle, qui a un pouvoir explicatif plus élevé. Mais qu'est-ce qu'il nous dit au juste? Alors, je discute ces trois arguments, prenons-les l'un après l'autre. Les artistes sont des grands virtuoses pour faire, en quelque sorte, profession de désintéressement et dire jouer à qui perd gagne. Vous savez, le plus sûr moyen d'échouer, c'est de vouloir le succès à tout prix. Il y a là des paradoxes de la rationalité que les artistes connaissent bien, dont ils font presque leur pain quotidien. En même temps, quand on observe les situations, on voit bien que les revenus sont très fortement dispersés, mais alors est-ce qu'on peut supposer que la satisfaction, elle, n'est pas du tout dispersée, qu'on est également satisfait d'être artiste selon qu'on réussit peu ou qu'on réussit beaucoup? L'argument des compensations par la satisfaction, visiblement, tend le raisonnement de manière excessive. Alors, le deuxième argument, c'est celui de l'autonomie. C'est l'expression directe du mode d'exercice des activités. Dans les métiers artistiques, on est essentiellement un indépendant, un freelance, et en France, par dérogation, on peut être rattaché au salariat à travers l'emploi au projet, comme dans les arts du spectacle, le cinéma, le théâtre, etc. Il y a quelques exceptions, mais qui sont rares, les orchestres. Or, cet exercice du travail en indépendant, par mission et par projet, sans relation permanente avec un employeur ou un donneur d'ordre unique, reporte très fortement le risque d'emploi sur l'individu. Et la distribution des quantités de travail est à peu près aussi biaisée et inégalitaire que celle des revenus. On peut imaginer des systèmes d'assurance contre le sous-emploi, mais ils n'ont qu'un pouvoir de protection limité et ils ne se diffusent pas de la même manière dans tous les pays. Le troisième argument est celui qui met en avant la valeur de la formation et le contraste avec celui de l'expérience professionnelle. On conçoit habituellement que le travail, la rémunération dans le travail est le produit de quatre facteurs. L'effort, la quantité, le capital de connaissances et de compétences, un facteur plus complexe à définir, les aptitudes, il peut avoir d'autres noms, et puis un facteur aléatoire, la conjoncture aujourd'hui par exemple, des variations locales, ou bien un mauvais appariement avec un employeur par exemple, ou avec un projet. Or nous venons de voir que la quantité du travail, quand elle est liée à une prestation d'indépendant, dépend beaucoup de la valeur qui est reconnue à l'individu. Et quand elle est incorporée dans une œuvre, ça c'est un des aspects troublants du travail artistique, la quantité de travail peut être extrêmement variable. On peut travailler beaucoup à une œuvre et très peu à une autre, et le succès n'est pas forcément corrélé à cette quantité-là. Autrement dit, la relation est très variable entre les œuvres et entre les projets, et donc le niveau d'effort est quelque chose qui est difficile à qualifier, un concept et une réalité difficile à calibrer et à mesurer. Enfin, la variabilité des situations de travail que j'ai exposées augmente beaucoup l'impact du facteur aléatoire dont je viens de parler. Vous vous souvenez de mes quatre facteurs. Par exemple, si je suis un bon comédien et que je tourne dans un mauvais film, peut-être que ma valeur va se dégrader un peu, ou bien j'ai l'occasion de rencontrer un partenaire avec qui il se trouve que je vais me révéler idéalement assorti pour faire du bon travail, mais c'est peut-être un coup de chance. Il reste au milieu de tout ça les deux facteurs clés que sont la formation et l'expérience. Les propriétés habituelles du travail de création, c'est la variabilité des projets, la différenciation, l'originalité, l'innovation. Toutes ces caractéristiques mettent en question le pouvoir explicatif de la formation. Et pourtant, les artistes doivent rechercher dans la variété des expériences de quoi augmenter leur formation et leur apprentissage des multiples facettes de l'activité. Pourquoi est-ce que la formation initiale à ces métiers renseigne mal ? Si les compétences nécessaires à une professionnalisation réussie étaient faciles à définir, faciles à transmettre et à détecter, le système de formation filtrerait assez bien les candidats aux carrières dans la création. On a évidemment des cas très contrastés en musique classique contre le métier de romancier, par exemple. On a des pôles inverses, mais chaque fois, on peut trouver le même raisonnement à quantité de formation donnée. On n'expliquera pas bien pourquoi l'un va réussir beaucoup mieux que l'autre. Les analyses de salaire nous disent bien que l'expérience professionnelle joue un plus grand rôle. Mais qu'est-ce que c'est que l'expérience professionnelle dans ces mondes-là ? En fait, elle procure à la fois des compétences nouvelles qui sont acquises sur le tas, mais elles informent aussi l'individu sur ses aptitudes dont j'ai parlé tout à l'heure, dont il ne se sait pas d'emblée porteur et qu'il apprend à découvrir au fil du métier. Et voilà bien le cœur de l'interrogation, l'identification de ce qui fait la plus fine différence entre des artistes. C'est quelque chose qui ne se fait jamais en termes absolus, c'est-à-dire à l'aune de certains standards. Détient-il telle ou telle connaissance ? A-t-il atteint tel ou tel but dans l'exercice de son travail ? Ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait que de manière ordinale, comme on dit, c'est-à-dire en classant les individus les uns par rapport aux autres ou en fonction de l'intérêt de leur travail ou de la qualité de leur travail. Et c'est une des raisons pour lesquelles les mondes artistiques recourent tant au tournoi de comparaison et de compétition, les prix, les Oscars, les Césars, les hit-parades, les castings, les auditions, les classements des plus mercantiles aux plus nobles, c'est-à-dire du best-seller au classement ultime qu'est l'entrée au Panthéon. Au total, nous avons des dynamiques de carrière qui sont très caractéristiques et assez inhabituelles dans le monde du travail. Il s'agit de franchir des épreuves de comparaison relative, et ce franchissement d'épreuves de comparaison relative augmente l'information des individus sur leurs aptitudes, diminue les facteurs d'aléas dont j'ai parlé tout à l'heure, mais crée aussi des situations d'amplification dynamique d'écart individuel entre des individus. Et au bout du compte, les segmente assez fortement. Alors, il en résulte des inégalités absolument énormes. C'est ce qu'on appelle la loi de Pareto. La loi de Pareto dit 20% des individus obtiennent 80% de la reconnaissance ou des gains ou de l'estime dans quelques catégories d'activités artistiques que vous vous situiez. Alors, comment vivre dans un tel monde ? C'est une question intéressante qui intrigue beaucoup. D'une part, le travail de création a besoin de comparaisons interindividuelles. Il est impossible de créer dans un monde solipsiste. Deuxièmement, la cotation des qualités individuelles oriente beaucoup les préférences vers ceux qui sont jugés les plus talentueux. Et des inégalités de revenus exagèrent fortement des différences d'aptitude. On ne sait pas de combien un artiste est meilleur qu'un autre au départ, mais la demande va s'exercer fortement vers celui qui sera jugé à travers ces tournois de comparaison comme le meilleur assez rapidement et pourra créer des écarts vertigineux alors que peut-être au départ les différences étaient extrêmement faibles. Au total, le talent n'est peut-être qu'un pur différentiel, quelque chose qui est mesuré par une comparaison et par rien d'autre, mais la segmentation des réputations ensuite transforme tout ça en classement extraordinairement fort et en imputation de qualité substantielle, c'est-à-dire le talent. Si on savait définir le talent, mais on l'attribue à ceux qui sont les vainqueurs de ces compétitions, mais on ne sait pas définir ce qu'est le talent. Et donc la question qui vient, c'est: est-ce qu'on peut admettre que des travailleurs, que sont les artistes, ont commencé en quelque sorte sous le régime de travail de la motivation intrinsèque, cette motivation qui est liée à des gratifications non monétaires, au plaisir de se lancer dans une activité expressive, et qu'en progressant dans une carrière, ils se situent dans des univers de très fortes inégalités de réputation et de rémunération? Est-ce qu'ils sont demeurés insensibles au problème des gains? Vous pouvez les définir comme des gains monétaires, mais aussi des gains d'estime ou des gains de reconnaissance. Ou bien est-ce que leur comportement change, ou bien est-ce qu'ils ont été d'emblée, en quelque sorte, attirés par ce qu'un économiste, Alfred Marshall, appelait le fol espoir d'obtenir des gains très élevés. La motivation intrinsèque intervient, c'est sûr, au début, et durablement, notamment parce que l'individu ignore s'il détient des qualités nécessaires pour réussir et qu'il les conduit à surestimer fortement ses chances de succès. Mais la compétition, ensuite, va hiérarchiser les situations, distribuer les situations en réputation inégale. La question est de savoir si la compétition, qui est un moyen de, en quelque sorte, de tuer des motivations intrinsèques, si vous mettez les gens en situation de compétition directe, ils se sentent en quelque sorte disciplinés par le cadre de la compétition et peuvent perdre le ressort intime du travail de création qu'est la créativité. En réalité, la compétition doit demeurer suffisamment indirecte pour équilibrer les deux facteurs, celui de la créativité, qui serait exténué sinon, et d'autre part, les gains et la comparaison demeurent parce qu'ils ont des propriétés d'information. Ces gains d'estime ou des gains monétaires renseignent l'individu sur la valeur de son activité aux yeux d'autrui. C'est ce qu'on peut appeler un feedback d'information. Il peut être accommodé de multiples manières pour corriger ce que ça peut avoir de démotivant, mais il correspond bien à une dynamique d'apprentissage et d'acquisition d'informations. Les deux derniers points que je veux souligner, c'est les artistes, comme je l'ai dit au tout début, ont une autre caractéristique, c'est qu'ils sont parmi les champions de la multi-activité. Et ils le sont obligés puisque les risques qu'ils prennent sont élevés, donc ils s'adressent à des activités latérales, soit dans le monde des arts, soit à l'extérieur du monde des arts, pour soutenir leur travail de création. Et au fond, l'artiste, si je dois le définir d'un mot, c'est un virtuose de la diversification de ses activités, soit à l'intérieur de son travail de création, soit en combinant des ressources et des activités. Et la variabilité des comportements chez les artistes est très forte. Ils peuvent adopter des attitudes assez différentes d'un projet à l'autre pour composer différemment les différents éléments de rétribution. Par exemple, choisir un projet qui sera faiblement rémunérateur mais qui leur apprendra beaucoup ou qui leur vaudra l'estime de leur père, ou à l'inverse, gagner beaucoup d'argent pour augmenter la liberté d'agir sur une plage de temps différente. Et donc, si je dois résumer et conclure, je dirais que la distribution des artistes selon des chances de réussite professionnelle peut se définir comme la distribution des chances de diversification de leur activité. La formation les équipe bien pour des activités qui sont peu innovantes et qui sont assez prévisibles, mais là où les activités sont des activités de création et d'innovation, ce sont d'autres mécanismes qui se mettent en place, de révélation progressive des aptitudes et de développement de compétences qui ne sont pas acquises au départ. Donc, il en résulte trois originalités du travail de création. La première, c'est d'associer et de hiérarchiser des modalités très différentes de travail. Si je définis le travail comme une relation entre un effort, des compétences, des aptitudes et des aléas. La deuxième originalité, c'est d'inciter les individus à s'engager dans des activités hautement incertaines selon une dynamique de compétition sélective qui ne doit pas annuler le ressort de la motivation intrinsèque. Et la troisième originalité, c'est de provoquer des inégalités de situation qui sont extrêmement élevées, qui sont parmi les plus élevées dans le monde du travail, mais aussi, curieusement, une tolérance inhabituelle à ces niveaux d'inégalité, puisque les inégalités font même partie du spectacle offert à travers les tournois de comparaison dont j'ai parlé. Mais les mondes de l'art se procurent aussi et constituent aussi, bâtissent aussi des formules de mutualisation des risques et de coopération et de solidarité qui sont l'envers de la régulation de leurs activités par la compétition indirecte. Merci.